qui vont désobéir. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez tourner avec moi dans Lévitique, s'il vous plaît. Oui. Merci. Alors, on est dans le survol de la Bible. Et ce matin, on fait un tour de force, on essaie. On va survoler Lévitique, Nombre et Deutéronome pour ceux qui vont suivre l'enregistrement. Je suis en train de le chercher. S'il y en a qui peuvent m'aider, je suis juste en train de chercher le moment où les deux fils d'Aaron vont désobéir. Chapitre 10. Donc, le peuple d'Israël est appelé à vivre une vie à part des nations environnantes. Et à l'intérieur du peuple d'Israël, il y a les prêtres qui sont là pour représenter le peuple. Et dès le départ, disons que c'est souligné par un péché des deux fils d'Aaron au chapitre 10, au début du chapitre 10, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors ce feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Et Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Ça donne le ton pour le livre, ça donne le ton de la relation entre Dieu et son peuple. Celui qui va s'approcher de l'Éternel doit se sanctifier parce qu'il est en train d'entrer dans la présence du Dieu très saint. Et ce sont des leçons super importantes pour nous pour connaître Dieu, pour comprendre qui est Dieu. Alors ces prêtres-là vont avoir d'une part une tâche particulière au sein du peuple qui va être différente des autres. Ils sont là pour représenter le peuple devant Dieu. D'autre part, ils vont avoir une provision particulière, et on voit ça à travers le livre de Lévitique. Dieu prend soin de ceux qu'il consacre pour cela. Et ils vont être jugés d'une manière particulière aussi. Si je voulais résumer tout le livre, je vais juste vous donner un élément graphique que j'ai oublié de mentionner au début. Allez à la première phrase du livre, d'accord? Puis on pourrait résumer tout le livre avec la première et la dernière phrase. La première phrase, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla. Alors Dieu appelle et puis il va parler. Si vous allez à la toute dernière phrase du livre de Lévitique, c'est juste pour essayer de vous donner un élément concret pour retenir ce livre-là. Le verset 34, Lévitique 27, 34. « Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. » Alors, le livre de Lévitique se déroule dans cette portion-là de l'histoire d'Israël où ils sont au pied du mont Sinaï et la loi est donnée dans son ensemble. Maintenant, gardez ça à l'esprit parce que tout à l'heure, on va placer Deutéronome par rapport à Lévitique. Puis Deutéronome semble a beaucoup, beaucoup de répétitions par rapport à Lévitique puis des éléments qui se développent aussi. Mais donc, dans la première, Dieu les appelle, la première phrase du livre et la dernière, « Voici toute la loi qu'il leur a donnée au pied du mont Sinaï ». Vous avez les ingrédients pour vous situer. Et donc, à l'intérieur de tout cela, on trouve toute cette loi. Comme je le mentionnais, premièrement, on y voit que le peuple de Dieu est un peuple distinct et donc qui est appelé à vivre une vie sainte. Et à l'intérieur de ce peuple-là, il y a un groupe particulier qui sont les prêtres qui sont appelés à représenter le peuple. Et ça, ça résume une bonne partie du livre, d'accord? Ceux qui vont représenter le peuple auprès de Dieu. Une deuxième partie, à l'intérieur de cette première section-là, eh bien, c'est cette idée que maintenant ce peuple-là est appelé à vivre une vie sainte elle-même, lui-même. Tournez avec moi dans Lévitique 20. « Donc, le peuple en entier est appelé à être distinct, non seulement pour rejeter les nations ou quoi, quelque chose comme ça, mais pour être un témoignage devant les nations. D'accord? Et donc, versets 23 à 26, « Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination à cause de leurs péchés. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez le pays, et je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par les reptiles de la terre, que je vous ai appris à distinguer comme impurs. » Verset 26, c'est celui-là qui m'intéresse. « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. » Et donc, lorsque Dieu a racheté Israël en Égypte et les a sortis de cet esclavage-là, il les a conduits au désert pour les inviter à contracter une alliance avec lui. On voit ça dans Exode, on voit cette rencontre-là entre Dieu et son peuple dans le livre d'Exode et il y a la construction du tabernacle. Lorsqu'on arrive dans le livre de Lévitique, on a cette description de cette loi, de cette alliance dans ses détails. Qu'est-ce que ça veut dire suivre un Dieu saint? Qu'est-ce que ça implique pour les prêtres? Qu'est-ce que ça implique pour le peuple? Et la deuxième idée principale que je mentionnais tout à l'heure, c'était le peuple de Dieu est pécheur et il a donc besoin de sacrifice. Première idée, le peuple de Dieu est distinct et donc il est appelé à vivre une vie sainte. Deuxième idée, le peuple de Dieu est pécheur, il a donc besoin des sacrifices. Une large part du livre est ensuite consacrée à expliquer tout le système des sacrifices, son rôle, comment est-ce que ça se déroulait, comment est-ce que ça devait fonctionner. Et je vais terminer cette portion-là sur Lévitique en allant avec vous dans Lévitique 16. Tournez avec moi au chapitre 16, s'il vous plaît. Lévitique, chapitre 16. Le grand jour des expiations. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'était que cette journée-là, à quoi est-ce que ça servait, quel était son rôle? Le grand jour des expiations, ce qu'on appelle le Yom Kippour, d'accord? Quelqu'un qui veut me résumer à quoi ça servait, qu'est-ce qui se passait là? Oui, mais ça, c'est tous les sacrifices, il y avait des sacrifices d'animaux, tout ça. Maintenant, le grand jour de l'expiation, c'est une journée spéciale. Ça se passait, oui. OK, excellent, excellent. Alors, c'est la journée dans l'année où le grand sacrificateur venait devant l'Éternel et allait offrir vraiment des sacrifices pour tous les péchés du peuple, d'accord? C'était une journée sainte, c'était une journée où, le prêtre allait se présenter, il allait entrer dans le lieu très saint, une fois par année, pour pouvoir offrir ces sacrifices-là, présenter ce sacrifice-là, cette offrande à l'Éternel. Et il le faisait, premièrement, il se purifiait lui-même, et deuxièmement, il le faisait en vertu du peuple en entier. Cette fête-là est super importante parce qu'elle nous pointe évidemment vers le Nouveau Testament. Regardez avec moi les versets 20 à 22. Lévitique 16, 20 à 22. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions dans lesquelles ils ont péché, par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Alors, évidemment, ce geste-là avait une dimension symbolique, puisqu'on prenait un bouc, on prenait un animal pour représenter les fautes du peuple. Et ceci nous pointe vers le Nouveau Testament. Lire le livre de Lévitique, comprendre le système des sacrifices, comprendre qu'est-ce qui est là, les notions de sainteté, ça nous pointe vers le Nouveau Testament. Tournez avec moi dans Hébreux. Hébreux 10. Versets 1 à 4. En effet, la loi qui possède une ombre des choses, des biens à venir, je m'excuse, et non l'exacte présentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais leur souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici, je viens, pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première pour établir la seconde. Donc le livre de Lévitique nous pointe vers quelque chose d'autre et nous aide à comprendre, lorsqu'on s'en va lire dans Hébreux, ça nous aide à comprendre que ces sacrifices-là qui étaient faits année après année étaient en réalité symboliques parce qu'ils ne venaient pas accomplir parfaitement la justice de Dieu, d'accord? Et donc, les gens n'étaient pas graciés de manière permanente et revenaient à chaque année devant Dieu afin que ces sacrifices-là soient renouvelés. Et ceci, Christ est venu l'accomplir parfaitement à la croix. Donc, ce sont des livres qui sont importants pour nous. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur Lévitique? Pardon? Ben, dans un sens, oui, un juif avait jamais une certitude qu'il était en paix avec Dieu. Ça, c'est très clair. Et donc, il était toujours en attente du moment où il va devoir se représenter devant Dieu pour pouvoir se faire pardonner à nouveau, ça c'est clair. Maintenant, ça serait quoi la différence? Est-ce qu'un chrétien se convertit et puis confesse ses péchés, se convertit, puis ne confesse plus ses péchés par la suite? C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer là-dessus? Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire au début lorsque tu dis au niveau de sa relation? C'est ça que tu as dit? Ça ne change rien?
C'est-à-dire que dans le passé, il fallait qu'il y ait des sacrifices continuellement.
Mm-hmm.
Okay? Il s'en met devant Dieu et il fallait qu'il y ait toujours des sacrifices pour le péché d'hier ou de l'instant qu'il venait de le faire. Tandis que là, présentement, on a un Dieu qui nous a pardonné, le sacrifice est accepté. Et notre comportement est le même, mais on peut le confesser maintenant à Dieu et avoir une relation avec nos frères et sœurs d'une façon réelle, sans être obligé d'offrir le sacrifice.
OK. Quelqu'un d'autre qui veut ajouter? Pourquoi est-ce qu'on continue à confesser si on a été pardonné une fois pour toutes? Suzy. OK. Oui, monsieur.
Pour avoir la connaissance, il faudrait vrai que le Saint-Esprit qui vient nous convaincre de péché, puisse déjà nous montrer en fait la séparation entre ce qui est de Dieu par rapport à notre nouvelle nature et ce qui n'est plus de Dieu, donc notre ancienne nature, pour faire comprendre en fait que notre ancienne nature a été crucifiée en Christ. Et c'est au cours de ce renouvellement d'intelligence en fait qu'on chasse toutes les mauvaises pensées qui sont dans notre âme pour essayer d'être renouvelé par la parole de Dieu. Et pas de soi que quand le Saint-Esprit nous montre en fait donc on est Dieu de demander pardon à Dieu parce qu'on fait.
Donc, ce serait plus dans une perspective de croissance, si on peut dire, pour le renouvellement de l'intelligence, grandir dans notre connaissance de Dieu. J'avais deux autres personnes, Stéphane aussi, brièvement, OK, puis on va passer au prochain livre. Linda. Oui, c'est vrai. Maintenant, ma question était surtout due au fait qu'ils devaient renouveler leur sacrifice à chaque année, alors que le sacrifice de Christ s'est fait une fois pour toutes. Wedley, pourquoi est-ce que nous, on va aller confesser à chaque fois? OK. OK. Stéphane? Oui. C'est correct, c'est correct. Je vais arrêter ici. Oui, alors, l'idée de communion avec Dieu demeure, d'accord? L'idée que je peux, comme Suzy l'a mentionné, attrister l'esprit demeure. Mon état devant Dieu est établi par un sacrifice qui a été fait une fois. Et celui-là n'a pas à être répété. Ma communion, la liberté que je laisse à l'esprit de travailler en moi, la plénitude de l'esprit, un peu comme disait monsieur, le renouvellement de l'intelligence, tout ça va être dépendant de ma quête quotidienne de sainteté. Et lorsque le Saint-Esprit me montre des péchés dans ma vie en lisant les Écritures ou par un frère qui vient me voir, peu importe, le Saint-Esprit me montre quelque chose, je vais aller confesser pour laisser toute la liberté à l'Esprit de travailler en moi pour honorer Dieu parce que je marche dans cette vie sainte. Mais pas de la même manière que dans l'Ancien Testament où je dois à chaque fois renouveler le sacrifice, lui a été fait d'une manière permanente par Christ lui-même. Et donc, moi, je n'ai aucun sacrifice à offrir. C'est davantage avec l'objectif de laisser l'Esprit librement travailler en moi. Et ça fait une grande différence. Ça devrait faire de nous des gens qui courront plus vite à la croix. D'accord? Parce que je sais que je suis gracié. Tout ce que Dieu attend, c'est que je vienne vers lui pour pouvoir se servir librement de moi. Qu'est-ce qu'on fait de la loi? Parce qu'une question qu'on se pose évidemment lorsqu'on lit le livre de Lévitique, à quoi sert tout ça pour nous des chrétiens du Nouveau Testament? On est tenté de rester essentiellement dans le Nouveau Testament puis de peut-être pas aller lire des livres comme Lévitique ou essayer de les lire très, très, très rapidement. Bien, il y a deux choses. Dans la lettre aux Romains, Paul nous dit que la loi a été donnée afin qu'on puisse connaître que nous sommes pécheurs. Et donc, dans ce sens-là, lire le livre de Lévitique est encore très utile pour nous aider à prendre le pouls d'où on est. Bien sûr, il y a un bon nombre de lois qu'on ne peut plus appliquer, c'est évident. Toutes celles qui sont reliées au système sacrificiel, je ne peux pas les appliquer. Mais toutes celles qui sont reliées à cette idée qu'on est un peuple distinct, qui m'aide à mesurer la sainteté de Dieu, demeurent extrêmement utiles pour pouvoir faire le point et voir où est-ce que moi j'en suis dans ma propre sainteté. Donc, la loi demeure utile dans ce sens-là. Et deuxièmement, bien comme j'ai mentionné, évidemment, on va s'adapter parce qu'il y a des lois qu'on ne pourra pas appliquer de la même manière parce qu'elles ont été accomplies en Jésus-Christ. Alors, c'est un des autres bénéfices qu'on trouve justement en lisant Lévitique. C'est qu'en lisant Lévitique, toutes les lois que je rencontre qui sont rattachées au système sacrificiel, c'est pour moi un objet de louange de savoir que tout ça a été accompli en Jésus-Christ. C'est pas juste que j'ai plus à faire toutes ces routines-là qu'eux autres avaient à faire. C'est de mesurer la distance qui s'est rétrécie entre Dieu et moi par le sacrifice de Christ et que je peux constamment aller dans sa présence. Alors, ceci, c'était pour le livre de Lévitique. On va passer au livre de Nombre. Le livre de Nombre, d'où vient son nom, d'après vous? Dénombrement, d'accord? C'est pas très, très chinois. Alors, les livres de Nombres prend son nom de la Septante, du mot dénombrement. Dans le texte hébraïque, le mot hébreu qui est là signifie désert. Et peut-être que ça serait plus juste pour nous pour retenir ce livre-là, parce qu'il s'agit de toute cette période du passage au désert, d'accord? Et c'est là qu'on va suivre les pérégrinations du peuple à travers le désert. Donc, vous pouvez retenir ça, désert, pour résumer le livre de Nombres, c'est-à-dire pour situer le livre de Nombres. Je m'excuse, je vais juste tourner. Encore une fois, si j'essaie de résumer ce livre-là en trois idées principales, la manière que c'est mentionné dans vos notes, c'est la formation et la préparation d'Israël par Dieu dans le désert en vue de l'entrée dans la terre promise. Ce qui est tout à fait juste, d'accord? C'est vraiment une période de préparation. Maintenant, si je voulais résumer ça en trois idées principales, Dieu prépare le peuple, premièrement, mais le peuple n'a pas confiance en Dieu, parce qu'on a tout l'épisode des murmures et de la rébellion à Kadesh, d'accord? Alors, premièrement, Dieu prépare le peuple. Deuxièmement, le peuple n'a pas confiance en Dieu. Et troisièmement, pourtant, Dieu persévère avec son peuple. Trois idées principales pour résumer le livre des Nombres. Alors, premièrement, Dieu prépare le peuple, bien par les enseignements concernant la pureté. D'autres lois vont être stipulées ici. Dieu prépare le peuple en organisant le peuple, évidemment, en mettant en place les prêtres, et puis en se positionnant lui-même au milieu de la vie du peuple, en confirmant sa présence au milieu du peuple. On va tourner tout de suite parce que le temps file au chapitre 11 et suivant, d'accord? Le livre des Nombres est extrêmement utile. Si je le place dans la révélation de toutes les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, on voit, ça a déjà commencé dans le livre d'Exode, mais on voit ça à nouveau ici. On voit la bonté de Dieu qui veut faire d'Israël son peuple et on voit la non-confiance et la rébellion d'Israël. Et Dieu est en train de révéler le cœur d'Israël. Ça va continuer à travers les juges et on va voir constamment le cœur d'Israël. Ceci est en préparation pour la nouvelle alliance, où un jour Dieu va donner un cœur nouveau à son peuple. D'accord? Son esprit va venir vivre en son peuple. Alors, lorsqu'on arrive dans cette partie-là où le peuple de Dieu ne fait pas confiance, à l'Éternel, bien on a les complaintes, les murmures concernant les labeurs, concernant la nourriture. On a Myriam et Aaron qui vont aussi se plaindre eux-mêmes. Mais on arrive au chapitre 13 avec la rébellion. Les espions sont envoyés. Les espions reviennent et dans leur rapport, ils parlent de ces géants qu'ils vont devoir affronter pour entrer dans la terre promise. Et dans ces quelques jours-là, il va se passer un revirement super important pour Israël. Et ce passage qui devait se faire dans le désert va se transformer en cimetière. Ça va devenir le lieu, l'endroit où on va enterrer nos pères. D'accord? Parce que les espions vont et puis ils observent qu'il y a des géants. Et lorsqu'ils reviennent et qu'ils font rapport au peuple, la réponse du peuple, ils suivent le sentiment de la majorité des espions. Et donc la réponse du peuple, c'est de ne pas avoir confiance en Dieu. Et ça, c'est un des patterns dans la relation entre Dieu et son peuple. Dieu prépare son peuple, Dieu bénit son peuple. Le peuple n'a pas confiance en Dieu. Lorsque les épreuves arrivent, le peuple murmure. Une autre manière de voir ce livre-là, c'est j'aimais l'image, c'est de dire « Le passé a de l'air plus beau, le futur est prometteur, mais je suis insatisfait du présent dans ma relation avec Dieu maintenant. » Et avec ça, vous avez des pistes pour vous-même. Des pistes d'application dans votre vie personnelle en regardant le livre des Nombres. Le passé a de l'air plus beau, l'avenir est prometteur, mais je suis insatisfait de ce que Dieu me donne ici et maintenant. Et voyez-vous, lorsqu'on voit comment Israël va se comporter ici envers le peuple, comment est-ce que Israël va se comporter ici envers Dieu, bien moi-même, je peux me poser la question. Est-ce que c'est ça mon attitude générale? Lorsque je vais être dans la présence de Dieu, quand je vais être avec le Seigneur, ça va bien aller. Puis le passé avait de l'air meilleur, mais maintenant avec ce que Dieu me donne, c'est quoi l'état de mon cœur? Insatisfaisant. C'est le contentement qui n'est pas là chez Israël, où ils ne font pas confiance à Dieu dans le maintenant, là, dans ce que je suis en train de vivre maintenant. C'est quoi votre attitude générale? Est-ce que vous êtes comme Israël? Vous avez connu les bontés de Dieu dans le passé, dans votre vie? Vous attendez les bontés de Dieu dans le futur, mais maintenant, Dieu ne semble pas être là. D'accord? Et donc, ça, c'est vraiment une belle ligne d'application que je trouve intéressante qu'on peut faire à partir d'ici. Alors, les espions reviennent, font leur rapport, le peuple prend panique et décide de se rebeller. Et puis, Dieu va juger à ce moment-là. Dieu va juger. Moïse va intervenir encore une fois en leur faveur pour les secourir. Et puis le peuple, par folie, va décider d'aller, de se lancer à la guerre, comme s'ils pouvaient maintenant racheter ce qu'ils ont manqué dans l'œuvre de Dieu. Et puis, ça ne fonctionnera pas du tout, évidemment. Et on a l'intercession de Moïse dans les chapitres 14, au chapitre 14, verset 10 et suivant. Et enfin, le livre se termine sur la fidélité de Dieu envers son peuple. Parce que Dieu va demeurer fidèle et va continuer à marcher avec son peuple et va être gracieux, mais il va y avoir cette période où le peuple va enterrer ses pères. Et même si Dieu leur a pardonné, il y a une bénédiction qui ne sera pas là, dont ils vont être privés. C'est intéressant de savoir juste, je dirais, l'élément le plus fort qui pointe vers Christ, qui pointe vers la révélation à venir. Évidemment, tournez avec moi au chapitre 21. Est-ce qu'il y a d'autres moments forts que je manque dans Nombre qui pointent directement vers Christ? Ou celui-là, c'est le plus fort? Il y en a qui pensent à d'autres moments que j'aurais manqué très fort. Ça va? Verset 4, Nombre 21:4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Toujours cette idée de l'insatisfaction du présent, le non-contentement du peuple de Dieu. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait sa vie. Alors, tournez avec moi dans Jean 3. Si vous êtes familier avec les Écritures, vous savez exactement où on s'en va. Verset 14-15. C'est Jésus qui parle. Alors, commençons à 12. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Je ne sais pas si vous connaissez le prédicateur puritain Charles Haddon Spurgeon. Charles Spurgeon s'est converti sur ce texte-là, sur cette prédication dans Nombre. Et c'était un soir d'hiver, il faisait très froid, il cherchait une église où aller, puis il ne trouvait pas son chemin à cause de la neige, puis il est arrêté dans une église qu'il ne connaissait pas. Le prédicateur régulier qui était prévu n'était pas là. Et donc, c'est quelqu'un dans l'assemblée, un homme plus instruit dans la parole, qui a commencé à prêcher. Et Spurgeon dit que la prédication était exécrable, mais il prêchait dans l'ombre. Puis à un certain moment donné, dans sa prédication, tout ce qu'il a dit, c'est « Jeune homme, regarde à Christ, regarde à Christ, et tu vas être sauvé. » Et c'est tout ce qu'il a retenu du sermon, et il s'est converti là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nombre et ce que Jésus fait ici avec ce passage, qu'est-ce que nombre nous annonce sur l'Évangile? Il y a quand même plusieurs éléments. Je vais juste souligner ça avant de passer au prochain livre. Qu'est-ce qu'on voit dans cette leçon-là sur l'Évangile? Jésus n'est pas un serpent. On est sauvé par la foi uniquement. C'est juste un acte de foi, d'accord? Ces gens-là ne pouvaient pas rien faire pour se sortir de là où ils étaient. Ils n'avaient pas d'œuvre à accomplir. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est se tourner vers Dieu, se tourner vers la solution que Dieu a donnée. Et donc, ça nous parle énormément de la grâce, d'accord? Et c'était une image, c'était un type de ce que Christ allait accomplir lui-même. Oui, il y a plein de types dans l'ombre qui pointent vers Christ. Pardon? C'est ça. Jésus, dans l'Évangile de Jean, entre autres, là, Jésus va reprendre « Je suis le pain du ciel », tout ça, va reprendre plusieurs des éléments. Oui. Alors, évidemment, je vous dirais, une des applications les plus importantes, je crois, qu'on peut tirer pour notre propre vie, c'est de réaliser les bontés de Dieu, la grâce de Dieu et l'attitude du cœur du peuple de Dieu. Quel est son cœur? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il se situe? Comment est-ce qu'il répond à Dieu? Et comment est-ce que nous, on répond personnellement lorsque Dieu nous fait passer par des épreuves ou lorsque les choses ne vont pas comme on le voudrait? Quelle est notre attitude à nous, à l'égard de Dieu? C'est définitivement une des leçons importantes à tirer de ce livre-là, sans compter justement tous les éléments qui pointent vers Christ. Deutéronome, c'est vraiment un survol qu'on fait ce matin. La semaine prochaine, on va être dans un livre de la Bible. On va passer Josué. Alors, Deutéronome. Oui, Gérard. Oui, c'est ça. Puis dans notre quotidien aussi. Dans notre quotidien aussi. S'il a pourvu à mon salut, il va pourvoir à ma nourriture. S'il a pourvu à mon salut, il va pourvoir à mes besoins. Mais est-ce que j'ai le cœur du peuple d'Israël qui dit « C'est correct, tu donnes, mais je suis insatisfait. C'est pas ça que je voulais. C'est l'autre char que je voulais. C'est l'autre nanane que je voulais. » Et je pense que c'est surtout ça. La question, c'est pas est-ce que Dieu pourvoit, c'est est-ce que je suis content de ce que Dieu me donne, de ce avec quoi Dieu pourvoit. Le livre de Deutéronome. Deutéronome, ça nous vient d'où? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça s'appelle Deutéronome? C'est pas nombre, deux, nombre. C'est quoi que ça veut dire Deutéronome? Deuxième loi. T'as ça dans la tête? Tu viens de le lire là. Ça veut dire deuxième loi, tout simplement. Tout simplement. Certains ont dit que ce livre-là a été construit comme un traité. Vous savez, on a parlé de l'alliance que Dieu contracte avec son peuple. Bien, ces alliances-là, on les trouvait contractées entre des rois et des peuples, entre des empereurs et des peuples. Et donc, certains étudiants de la Bible ont dit, bien, ce livre-là a été construit comme un traité, parce qu'il y a un prologue historique où Dieu, au début, fait une révision de l'histoire d'Israël. Ensuite de ça, dans un deuxième temps, Dieu donne une série de lois. Quelles sont les conditions, quelles sont les lois observées pour entrer dans cette alliance avec moi? Et à la toute fin, Dieu va présenter des bénédictions si je suis fidèle à l'alliance et des malédictions si je me détourne de l'alliance. D'accord? Et donc, vous pouvez voir le livre de Deutéronome comme ça. Ce sont en fait les derniers discours de Moïse avant qu'Israël se prépare à rentrer dans la terre promise. D'accord? Donc, si on replace les trois livres, Lévitique, ça se passe au pied du mont Sinaï. Au pied du mont Sinaï, Dieu donne ses lois. Là-dedans, on voit que le peuple d'Israël est un peuple distinct qui est appelé à marcher dans la sainteté. On voit qu'il est un peuple pécheur qui a besoin des sacrifices pour le pardon de ses péchés. Lorsqu'on pense au livre des Nombres, on a cette période-là de pérégrination à travers le désert, où on va voir Dieu préparer son peuple. On voit que le peuple a de la difficulté à faire confiance à Dieu, mais que Dieu est fidèle envers son peuple. Et lorsqu'on arrive à Deutéronome, on a les derniers discours de Moïse, et donc qui est en train de préparer la nouvelle génération qui va entrer dans la terre promise. C'est pourquoi on a au début tout ce prologue-là historique où on revoit l'histoire d'Israël, parce qu'on est en train de revoir ces notions-là avant de se préparer à aller. Mais on peut le voir aussi comme un traité, une alliance, où Dieu fait un prologue au début, rappelle les circonstances de l'alliance traitée entre Dieu et son peuple. Deuxièmement, rappelle les lois de cette alliance-là, et puis développe certaines des lois, il va un peu plus loin. Et puis, troisièmement, annonce les bénédictions et les malédictions qui sont rattachées à l'obéissance ou non à ces lois. Et c'est inscrit comme ça au début de vos notes. La loi donnée à la nouvelle génération en vue de vivre l'alliance dans la terre promise. Donc, on a au début cette rétrospection où Dieu va revoir l'ensemble des lois, l'ensemble de l'histoire. Et puis ensuite de ça, il va présenter les lois et puis les termes de cette loi-là. Une autre manière de résumer le livre que je trouve intéressante, c'est de dire que Dieu se choisit un peuple et que le peuple doit choisir Dieu à son tour. Ce serait une autre manière de résumer l'ensemble du livre. Dieu, par son prologue, Moïse, dans le prologue, résume l'histoire d'Israël et puis rappelle à la nouvelle génération que Dieu les a choisis. Dieu a choisi leur père, Dieu les a choisis comme peuple. Il leur rappelle les lois. Et au fur et à mesure qu'il rappelle les lois, il y a cette invitation à choisir d'obéir à la loi ou non. Et donc, il y a ces deux idées-là qui sont là dans le livre. Encore une fois, Dieu se choisit un peuple et le peuple doit choisir lui-même s'il veut marcher avec Dieu. Parce que rappelez-vous, c'est la préparation pour entrer dans la terre promise. La bénédiction est imminente. Et la nouvelle génération doit décider s'ils vont obéir à Dieu et s'ils vont marcher avec Dieu. Alors, à l'intérieur de ça, lorsque je dis que Dieu se choisit un peuple, bien, ce Dieu-là se présente. Il est le seul vrai Dieu. Il est le Dieu souverain. Des passages importants dans lesquels on voit que Dieu va dire, c'est moi qui vous ai choisi, non pas en vertu de ce que vous êtes, non pas en vertu de ce que vous aviez à offrir, mais parce que moi, je vous ai choisi. C'est parce que c'est pour la gloire de son nom. Il va annoncer à l'intérieur de tout ça toutes les lois, les bénédictions, les promesses. Le peuple qui est choisi par Dieu, voici ce qui lui est promis, voici ce qu'il va recevoir. Et dans un deuxième temps, le peuple de Dieu doit décider s'il va obéir à ses lois. Ce choix-là est individuel, c'est clair dans le livre de Deutéronome. Chaque personne doit décider s'il va, lui et sa maison, s'il va marcher avec Dieu, s'il va aller avec Dieu. Le défi va venir au début de Josué, vous vous rappelez, mais... chaque individu doit prendre cette décision. Moi, est-ce que je vais marcher avec Dieu? Et est-ce que je vais marcher avec, est-ce que ça va devenir mon Dieu? Est-ce que Dieu va être mon Dieu à ce moment-là? Et un des éléments importants qui est développé à l'intérieur de Deutéronome, c'est que les choix que moi je fais de marcher avec Dieu ou non ont des implications pour ma famille, pour ma descendance, pour la génération qui suit après moi. D'accord? Et donc ça, c'est présenté aussi à l'intérieur de Deutéronome. Les passages qui pointent vers Christ qui sont importants, je vous dirais, là, je vais vraiment vers les plus importants selon moi. Dans Deutéronome 34, on arrive à la conclusion et puis à la conclusion du livre et il y a une espèce de bilan qui est fait sur la personne de Moïse. Versets 10 à 12. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Alors, juste un petit commentaire, une petite note. Nous présumons évidemment que ce n'est pas Moïse qui a écrit la fin du Pentateuque. D'accord? Si on a dit que Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, et on présume que c'est un travail d'édition qui a été fait ici par un proche de Moïse. D'accord? Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Maintenant, en quoi est-ce que ce passage-là pointe vers Christ? En quoi est-ce que cette idée-là pointe vers Christ? Quelqu'un qui veut s'essayer. C'est ça. Alors, tournez avec moi dans Deutéronome 18. Ce que Stéphane a dit, c'est comme c'est Moïse lui-même qui avait annoncé qu'un autre prophète comme lui viendrait. Et donc, en ce sens, Moïse est un type de Christ, effectivement. Deutéronome 18, verset 15. 15 à 19. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'Assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Les Juifs n'ont jamais vu, ceux qui n'ont pas reconnu en Christ ce nouveau Moïse, n'ont jamais vu ce nouveau Moïse arriver. D'accord? Il y a des sectes juives qui prétendent que le deuxième Moïse est venu, puis ils identifient des grands rabbins, des enseignants, il y en a encore aujourd'hui actuellement. Ils identifient certains rabbins comme étant ce Moïse, ce deuxième Moïse, mais il n'est jamais reconnu sur le plan national, d'accord, comme étant ce Moïse. Alors, ce deuxième Moïse qui devait venir, c'est Christ lui-même. Et vous prenez les miracles qui se sont faits par la bouche, par l'entremise de Moïse, et vous n'avez rien d'équivalent avant Jésus-Christ. D'accord? Il faut arriver à Christ, à sa vie, lire les évangiles pour voir cette effusion-là de puissance de la part de Dieu, ces miracles-là d'une manière incomparable. Et je dis juste dans le texte qu'on vient de lire au verset 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. » Christ lui-même prétend cela. D'accord? Il dit « Tout ce que je fais, c'est mon Père qui me le montre et je ne ferai rien de ce que mon Père ne m'a pas montré. Je suis juste en train d'être là et je parle au nom de mon Père. » Et donc, lui-même reconnaissait qu'il était ce second Moïse qui vient au milieu de son peuple. Et à la toute fin, au verset 19, il y a un jugement qui concorde avec l'œuvre de Christ. « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Effectivement, si on n'écoute pas Christ, nous aurons à rendre compte devant l'Éternel et on sera damné parce que c'est lui, ce second Moïse, qui vient pour nous conduire vers l'Éternel. Est-ce que vous avez des questions? Oui, ou des commentaires? Oui, dans Jean 6, Jean 6, 14. Oui, oui, définitivement. Ben oui, puis je veux dire, les premières églises, c'était des Juifs, là, on s'entend. Hein? Quand je dis que les Juifs ne l'ont pas reconnu, je parle à l'échelle nationale. Mais effectivement, ils l'ont reconnu. Bon, lorsqu'on lit les évangiles, il y a plusieurs idées. Vous avez le prophète qui est attendu, c'est celui, c'est exactement, c'est le second Moïse. Mais d'autres prophéties vont s'ajouter. Alors, ils vont appeler parfois Jésus fils de David. Ah, là, ils sont en train de faire allusion aux promesses qui avaient été données à David, que son trône serait éternel, d'accord? Alors, donc, il y a différentes prophéties de l'Ancien Testament auxquelles va être fait allusion lorsqu'on va parler de Jésus et on va reconnaître en lui le Messie, d'accord? Et puis c'était pas clair non plus. Alors, cette idée du Messie souffrant qu'on trouve dans Ésaïe 53, ce deuxième Moïse-là devait pas seulement être un intercesseur qui allait prier puis qui allait dire, bien, de s'interposer entre Dieu et le peuple. Il va faire plus que ça, il va se sacrifier lui-même. Donc, il va aller beaucoup plus loin que ce que Moïse a fait. Moïse est vraiment juste un type de Christ, mais Moïse est en rien comparable à Christ, si je peux dire. C'est quoi les leçons, les applications qu'on peut tirer et qu'on devrait chercher à tirer? Si vous allez à la toute fin de vos notes, de ces livres-là. Des livres qui, avouons-le, souvent on va les lire, on va les traverser, puis... Bon, à part pour les parties narratives, mais je pense à Lévitique où c'est vraiment pas un livre narratif. Il n'y a pas d'histoire, ce sont des lois. On a tendance à trouver ça sec et lourd. Quelles sont les applications qu'on peut garder? Garde ton cœur plus que tout. Mon cœur est le plus important de tout. Je dois garder ce cœur-là attaché à Dieu. Une des leçons importantes, je crois, c'est cette idée que nous sommes un peuple distinct. L'Église ne doit pas ressembler au monde dans sa sainteté. L'Église est différente du monde dans sa sainteté, dans sa manière de vivre. Et donc, tout ce qu'on fait lorsqu'on est en contact avec le monde, que ce soit écouter des films, que ce soit jaser, que ce soit comment est-ce qu'on construit nos couples, comment est-ce qu'on vit nos relations, ces choses-là, il ne s'agit pas simplement d'avoir l'air différent en disant « Ah non, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. » Mais on est appelé à être fondamentalement différent parce qu'on est appelé à marcher dans la sainteté. C'est quoi les autres leçons qu'on peut tirer de ces livres-là? Est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit? Il nous reste deux petites minutes. Des leçons, des applications qu'on peut tirer de ces livres-là. Oui, Annie. Fait que d'une part, Dieu est constant, puis Dieu est gracieux. Puis les deux sont là. Une des leçons qu'on devrait retenir avec cette idée qu'on passe plus d'une génération, c'est qu'on doit nous instruire la prochaine génération. Et donc, on a un travail à faire avec nos enfants pour pouvoir les instruire dans la foi. Après, ils vont faire un choix, hein, comme dans Deutéronome, la deuxième génération, la nouvelle génération devait faire un choix. Les lois lui sont rappelées et doit choisir. Alors, mes enfants vont faire leur choix par eux-mêmes s'ils veulent embrasser la foi et obéir à ce Dieu-là merveilleux. Mais mon mandat à moi, c'est de les instruire, c'est de les enseigner, c'est de leur présenter ce Dieu saint et souverain. Est-ce que, je vous pose une question, je ne sais pas s'il y en a qui vont répondre oui puis qui vont oser le dire, mais est-ce que vous avez encore l'impression, parce que plusieurs ont cette impression, est-ce que vous avez encore l'impression que ce Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu beaucoup plus sévère et beaucoup plus dur que celui du Nouveau Testament? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de s'atténuer, puis vous, comme les livres se placent mieux? Oui, Linda. OK, alors c'est aussi sévère dans le Nouveau Testament, puisque à la fin, il y a un jugement final. Celui qui rejette Dieu, bien, va être dans les Wamba. Mm-hmm. OK, c'est bon. Puis c'est une nuance importante. Dans l'Ancien Testament, Israël était là pour être une théocratie, c'est-à-dire un peuple qui allait vivre là, dirigé sous la gouverne de Dieu et se distinguer des autres peuples. Donc, il y a beaucoup de promesses qui sont très imminentes et des malédictions qui sont très imminentes aussi, où les jugements viennent immédiatement. Maintenant, en même temps, dans le Nouveau Testament, parce que, oui, c'est vrai que dans le Nouveau Testament, le jugement vient plus tard, le jugement ultime. En même temps, Dieu châtie ses enfants. Paul est assez clair lorsqu'il dit « c'est pour ça que plusieurs d'entre vous sont morts ». C'est comme assez clair, c'est assez fort. Mais et l'autre volet, c'est que dans l'Ancien Testament, on voit cette bénédiction de la terre promise où Dieu va bénir son peuple avec abondance. Puis là, on arrive dans le Nouveau Testament, puis on dit « ouais, mais ça ne fonctionne pas exactement de la même manière ». C'est d'ailleurs une erreur que les prédicateurs d'un évangile de la prospérité vont faire. C'est qu'ils vont aller prendre des textes de l'Ancien Testament, puis ils vont dire « regarde, si tu fais ça, Dieu va bénir, tu vas être dans l'abondance, tout ça. » Bon, alors c'est vrai que c'est différent. Mais en même temps, une bonne partie des promesses d'abondance dans le Nouveau Testament sont accomplies et remplies par l'Église. Et ça, c'est un volet de la vie de l'Église qui doit grandir. Lorsque Jésus dit, il n'y a personne ici qui va perdre sa maison puis qui ne va pas en retrouver 10. Il est en train de parler de notre vivant parce qu'il est en train de dire, les frères et sœurs vont être là pour prendre soin de toi. Ils vont être là autour de toi. Et donc, dans ce sens-là, la bénédiction doit aussi être maintenant. C'est bon, on va s'arrêter ici. La semaine prochaine, on va pouvoir s'étendre un petit peu plus sur un livre, là. Je suis désolé de sauter comme ça à coup de 20 minutes à travers 3 livres. La semaine prochaine, on va être dans le livre de Josué et on va terminer avec un mot de prière. Père éternel, merci pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta parole qui nous rappelle ta grande sainteté, ô Dieu. Et toutes ces lois nous rappellent cet appel que tu as placé sur notre vie de marcher dans la sainteté, Seigneur, à ton image. Elle nous rappelle aussi ta grâce en nous parlant sans cesse des sacrifices qui étaient accomplis, qui nous parlent même du sacrifice de Christ. Tu es un Dieu magnifique, Seigneur, et tes lois sont saintes. Et marcher dans cette sainteté, c'est une promesse, c'est un gage de bonheur, Seigneur. Et je veux t'en rendre grâce. Je te remercie pour tes saintes Écritures. Aide-nous à grandir, Seigneur, dans notre appréciation, notre méditation de ta parole et que ta parole puisse habiter nos cœurs, que nous apprenions à reconnaître dans tous ces moments qui nous pointaient vers Christ, ces beaux passages qui nous inspirent à la louange, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. J'ai une tablette ici en avant, d'accord, bleue. S'il y en a qui se sont joints au cours aujourd'hui et qui veulent recevoir les notes de cours par courriel sur la liste d'envoi, simplement inscrire votre nom sur cette feuille avec une adresse courriel. Je vais laisser un crayon avec et puis vous allez recevoir ça. Merci.